Chapitre 21e. Lorsque Onésime, accompagné de Suzanne et de Legoffin, entra dans le salon où l'attendait Sabine, il la trouva pâle, accablée, mais grave, presque solennelle. Sa faiblesse l'obligeait de rester à demi étendue sur une chaise longue. « Monsieur Onésime, dit-elle, veuillez vous asseoir, vous aussi, ma bonne Suzanne, vous aussi, Legoffin. » Les acteurs de cette scène s'assirent en silence et dans une profonde tristesse. « Avant de commencer cet entretien, reprit Sabine avec un sourire navrant, je dois vous prévenir que je suis très changé. » Ces peurs vagues, involontaires, souvent puériles, dont j'étais obsédé, je ne les ressens plus. Une réalité terrible m'a guéri. Devant elle, tous les fantômes qui, depuis mon enfance, assiégeaient mon imagination se sont évanouis. Je vous dis cela, mes amis, pour que vous ne gardiez envers moi aucun ménagement, pour que vous me disiez, ou plutôt pour que vous me confirmiez toute la vérité, si affreuse qu'elle soit. Maintenant j'ai le courage et la force de tout entendre. Un mot encore. Je vous adjure, Suzanne, et vous aussi, Legoffin, au nom de votre attachement si éprouvé pour moi et pour ma famille, de répondre loyalement à mes questions. Me le promettez-vous ? Je vous le promets, dit Suzanne. Je vous le promets, dit Legoffin. Il y eut ensuite un moment de silence. La gouvernante, le vieux serviteur et surtout Onésime étaient frappés de l'accent résolu avec lequel s'exprimait Sabine. Tout présageait que, quelle que fût sa détermination ensuite de cet entretien, cette détermination serait invariable. La jeune fille reprit « Suzanne, vous m'avez vu naître. Vous avez été, par votre dévouement et vos soins, l'ami de ma mère. C'est au nom de cette amitié que je vous adjure de me dire si les souvenirs de mon enfance ne me trompent pas. Si mon père, il y a 12 ans, vêtu, comme je l'ai revu avant-hier, n'a pas causé la mort de ma mère. Hélas, mademoiselle. Au nom de la mémoire sainte et bénie de ma mère, Suzanne, dites-moi la vérité. La vérité est, mademoiselle, répondit la gouvernante d'une voix tremblante. La vérité est que, après une scène violente que madame a eue avec monsieur, elle est morte, mais... Assez, ma bonne Suzanne, dit Sabine en interrompant. Et passant sa main sur son front brûlant, elle garda un moment le silence. Triste silence que personne n'osa rompre. La jeune fille poursuivit. Legoffin, vous avez été le serviteur, le digne serviteur de mon grand-père. Vous avez vu naître mon père. Vous vous êtes, en tout temps, en toutes circonstances, aveuglément dévoué à lui. Est-il vrai que mon père, au lieu de se livrer au commerce ainsi qu'il le disait, était corsaire et courait les mers sous le nom du capitaine L'Endurci? Oui, mademoiselle, c'est vrai, répondit Legoffin en étouffant un soupir. Après un nouveau silence, Sabine reprit « Monsieur Onésime, je me dois à moi-même, je vous dois à vous de vous faire connaître ma détermination. Dans un temps plus heureux, des projets d'union ont été formés pour nous, mais après ce qui s'est passé, après ce que vous savez et ce que vous venez d'apprendre, je ne vous surprendrai pas, je l'espère, en vous disant que ma vie ne doit plus être de ce monde. « Grand Dieu, mademoiselle !» s'écria Onésime. « Que dites-vous ? » « Je suis décidé à me retirer dans un couvent où je désire terminer mes jours. » Onésime ne prononça pas une parole. Sa tête se pencha sur sa poitrine. Ses larmes le suffoquaient. « Mademoiselle, non, non, c'est impossible !» s'écria Suzanne en pleurant. « Non, vous ne vous ensevelirez pas ainsi, toute vivante. »« Ma résolution est prise, » répondit Sabine d'une voix ferme. « Mais si ce séjour ne vous paraît pas trop triste, » ma bonne Suzanne, je serai heureuse de vous voir m'accompagner. Jamais je ne pourrai me séparer de vous, mademoiselle, vous le savez bien. Mais vous ne ferez pas cela, vous ne... Suzanne, dit Sabine en interrompant la gouvernante, depuis 2 jours, j'ai réfléchi au parti que je devais prendre. Il n'en reste pas d'autre, je vous le dis, ma résolution est irrévocable. Et votre père, mademoiselle, dit Legoffin, avant de vous séparer de lui pour toujours... Et Legoffin appuya sur ces mots, pour toujours. « Le verrez-vous au moins une fois ?» Sabine parut en proie à une lutte aussi cruelle que violente, puis elle répondit d'une voix altérée. « Non. » Ainsi, reprit le Goffin. Ainsi, de ce jour, vous êtes morte pour lui. Il est mort pour vous. » Sabine sembla faire de nouveau un violent effort sur elle-même et reprit. « Je ne dois revoir mon père que lorsque nous serons pour jamais réunis à ma mère. »« Ah, mademoiselle, » murmura le vieux serviteur désespéré, « vous n'aurez pas cette cruauté. »« Non, ce n'est pas de la cruauté, » répondit la jeune fille avec une résignation poignante. « J'accomplis un devoir filial. » Une enfant ne peut s'approcher de son père que le cœur rempli de tendresse et de vénération. Il doit être pour elle ce qu'elle aime, ce qu'elle respecte le plus au monde. Il en a été ainsi jusqu'à présent, entre mon père et moi. Cette pensée sera la consolation d'une vie qu'il me faut passer loin de lui. Ah, mademoiselle, si vous saviez sa douleur. Le Goffin, répondit Sabine en dominant son émotion, je ne puis que vous répéter ce que j'ai dit à Suzanne. Depuis 2 jours, j'ai réfléchi au parti que je devais prendre. Ma résolution est irrévocable. » Un silence morne, désespéré, accueillit cette déclaration de Sabine. Pendant quelques instants, l'on n'entendit que des sanglots étouffés. Le Goffin prit le premier la parole et dit à Sabine « Vous ne vous refuserez pas du moins, mademoiselle, à entendre la lecture d'une lettre de M. Cloarec. C'est la dernière chose qu'il attend de vous, car il prévoyait bien l'éloignement que vous devez maintenant avoir pour lui. » « De l'éloignement !» s'écria Sabine avec une mortelle angoisse. Puis, se contenant, elle ajouta « La fatalité seule a tout fait. » « Enfin, » dit le vieux serviteur en soupirant, « c'est toujours la même chose. Monsieur Cloarec ne vous verra plus. Veuillez du moins entendre la lecture de la lettre que j'ai remise à Monsieur Onésime. » « Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Goffin, c'est pour moi un devoir de me rendre à cette volonté de mon père. Monsieur Onésime, je vous écoute. » Le jeune homme décacheta l'enveloppe que le Goffin lui avait remise. La lettre que Cloarec écrivait à sa fille était accompagnée d'un billet ainsi conçu. « Je vous prie de lire à Sabine la lettre ci-jointe, mon cher Onésime. C'est une dernière preuve d'estime et d'affection que je désire vous donner. Puisse ce récit sincère, écrit par un père au désespoir et lu par une voix amie, allez au cœur de ma fille. Votre affectionné, Yvon Cloarec. » Après avoir donné connaissance de ce billet à Sabine, Onésime lui demanda s'il pouvait commencer sa lecture. La jeune fille répondit par un signe de tête affirmatif. Le jeune homme lut ce qui suit. « À ma fille. » La fatalité le veut. Je dois me séparer à jamais de toi, mon enfant, car maintenant tu ne saurais supporter ma vue. Ce terrible secret, un événement imprévu, te l'a fait découvrir. Oui, cet homme au costume étrange qui est resté dans ton souvenir comme le meurtrier de ta mère, c'était moi. Ce corsaire, dont les aventures t'inspiraient tant d'effroi, tant d'horreur, c'était moi. Ta mère était grosse d'un second enfant. Nous avons eu une vive discussion. La première et la seule de notre vie, je te le jure. Je me suis emporté, ma colère est devenue si effrayante que dans la position où se trouvait ta malheureuse mère, elle est morte d'épouvante. Mon crime a été double, cette terreur qui a frappé ta mère, pauvre enfant, tu l'as aussi ressentie. Cette douloureuse impression de ton jeune âge influait sur ta santé, sur toute ta vie. Voilà quel a été mon crime. Je dois te dire à cette heure où il me faut sans doute me séparer pour toujours de toi, quelle a été l'expiation de ce crime. Lorsque je t'ai vue orpheline, je me suis demandé ce que tu deviendrais. Le peu de fortune personnelle que nous possédions, ta mère et moi, avait été presque entièrement perdue par suite du malheur des temps et d'un procès ruineux. Ma place de magistrat, notre principale ressource, m'était retirée. L'on punissait ainsi le scandale causé par mes emportements. Je réalisais le peu que je possédais. Cela se montait à 6 000 francs environ. Suzanne Robert t'avait nourri. Cette excellente femme, par ses qualités, par son dévouement, avait mérité de ta mère la plus affectueuse estime. Je dis à Suzanne, « Voici 5 000 francs. C'est de quoi suffire pendant 5 ans, bien modestement, il est vrai, à votre existence et à celle de ma fille. Je vous la confie. Si à l'expiration de ces 5 années, vous ne m'avez pas revu, vous ferez parvenir à son adresse une lettre que je vous laisse. Cette lettre, mon enfant, était écrite par moi à un homme d'une grande et ancienne famille de France, retiré en Allemagne. Je lui avais sauvé la vie pendant la Révolution. J'étais certain que cet homme, ou à défaut de lui, sa famille, dont la richesse était encore grande, te traiterait comme une enfant d'adoption. Mais je ne voulais t'exposer qu'à la dernière extrémité à recevoir le pain amer de la pitié. Ces dispositions prises, je t'embrassai une dernière fois pendant ton sommeil, pauvre cher enfant, et je partis, emportant avec moi 1000 francs pour toute fortune. Le Goffin, fidèle et ancien serviteur, voulut courir les hasards de ma destinée, il me suivit. Pendant les quelques jours qui précédèrent mon départ, j'avais douloureusement médité sur l'avenir et sur le passé. Je m'étais interrogé, étudié, jugé avec une inexorable sévérité. La cause de mes malheurs et de mon crime envers ta mère était l'impétuosité de mon caractère. Tout ce qui blessait mes sentiments ou mes convictions, tout ce qui mettait obstacle à ma volonté, faisait bouillonner mon sang, exaltait tout mon être, et cette exubérance de force ne trouvait son expansion que dans la fureur et la violence. En un mot, mon vice capital était la colère. En m'étudiant ainsi moi-même, je me rappelais l'incroyable puissance morale et physique dont je me sentais doué lorsque je cédais à mes emportements. Souvent, révolté de certains faits iniques, de certaines oppressions cruelles, j'avais, dans l'effervescence même de ma colère, trouvé des forces presque surhumaines pour défendre les faibles et châtier les oppresseurs. Ainsi, un jour, j'ai eu seule raison de 3 misérables traits résolus qui violentaient une pauvre créature sans défense. Et pourtant, dans mon état normal, c'est à peine si j'aurais pu lutter avec avantage contre un seul de ces 3 bandits. C'est encore dans un de ces moments d'exaspération que j'ai pu arracher à une mort atroce le grand seigneur sur l'appui duquel j'avais autrefois compté pour toi. Dans l'ordre moral, la lâcheté, la perfidie, l'improbité m'inspiraient le même courroux, la même indignation. Mais ce courroux me poussait presque toujours à la violence contre ceux que je trouvais lâches, perfides ou improbes. Hélas, mon enfant, en poursuivant cette inexorable étude sur moi-même, je reconnus aussi que ma colère n'avait pas toujours eu des causes excusables. Une contradiction légitime me jetait aussi dans des emportements fougueux. La mort de ta pauvre mère en est un terrible exemple. Enfin, mon enfant, après ces longues et poignantes observations sur moi-même, après cette minutieuse évocation du passé, j'en suis venu à me résumer ainsi. La colère est chez moi une passion d'une telle énergie que ses accès ont toujours décuplé ma vaillance physique et morale. L'effervescence du sang, l'impétuosité du caractère, exaltée jusqu'à leur dernière puissance, la colère, en un mot, est donc une force. Quand cette force a été mise en jeu par des motifs généreux, elle m'a poussé à des actions dont je pourrais m'enorgueillir. Quand cette force a été, au contraire, mise en jeu par des motifs misérables, elle m'a poussé à des actes dégradants ou criminels, comme celui qui sera l'éternelle douleur de ma vie. La colère a été ma ruine, ma perte, mon désespoir. Elle a tué ma femme. Il faut, me suis-je dit, que la colère soit mon salut et celui de ma fille. Ces mots doivent te sembler étranges, mon enfant. Écoute-moi encore. Dans ma position de magistrat, ma propension à la colère et les violences qu'elle entraînait me nuisaient, me déconsidéraient. Mon caractère, mon esprit, mon tempérament étaient en désaccord continu avec mes fonctions. Je devais donc chercher une carrière dans laquelle le vice, ou plutôt la force radicale de ma nature, pût trouver sa libre expansion et s'utiliser ainsi pour moi, pour les miens, pour autrui. Cette carrière, je la trouvais. Mon grand-père avait été marin, comme nous le sommes presque toujours, nous autres Bretons, du bord de la mer. La faible santé de mon père, lui interdisant la rude profession de mon aïeul, il était entré dans la magistrature. Mais je fus élevé au bord de nos grèves solitaires, et la vue de la mer, les mœurs de nos pêcheurs, leur vie dure, aventureuse et indépendante, laissèrent dans mon cœur des souvenirs impérissables. Une circonstance puérile les réveilla, et la seconde phase de ma destinée s'accomplit. Voici comment. Le Goffin, ce serviteur fidèle qui t'a vu naître, a, tu le sais, l'habitude de citer 2 ou 3 proverbes de notre pays et de les appliquer à presque toutes les circonstances de sa vie ou de celle d'autrui. L'un de ces dictons qu'il affectionne est celui-ci. au loup la forêt, au pigeon le colombier. Le sens traditionnel que l'on attache à ces mots dans notre pays, et qui me semble juste, est celui-ci. À chacun le milieu où il doit et peut vivre d'après son organisation. Alors que je cherchais l'emploi de mes facultés, et que, faisant un triste retour vers le passé, je songeais à mon enfance écoulée au bord de la mer, auprès de mon aïeul, vieux et brave marin, le goffin qui, dans l'état désespéré où il me voyait, ne me quittait jamais, prononça, je ne me souviens plus à quel propos, son dicton favori. Au loup la forêt, au pigeon le colombier. Ces mots me firent profondément réfléchir et me mirent sur la voie de la vérité. Corsaire, être corsaire. Lorsque cette idée surgit de mes réflexions, je tressaillis d'espoir. C'était une révélation soudaine. C'était l'emploi de cette ardeur oisive qui me dévorait. Que voulais-je avant tout ? Te sauvegarder de la misère, ma pauvre enfant. T'assurer une existence heureuse, et pour le présent et pour l'avenir. Enfin, te conquérir une fortune qui te mit à même de te marier un jour selon ton cœur, et d'assurer l'indépendance et le bonheur de l'homme de ton choix. Que voulais-je encore ? Trouver un milieu où toutes mes forces vives eussent leur libre essor. Corsaire, être corsaire, pouvais-je avoir une idée meilleure ? Les prises que font les corsaires leur apportent souvent des sommes considérables. Il m'était donc possible de t'enrichir un jour, mon enfant. La vie de corsaire est une vie de lutte, de danger, une vie dans laquelle il faut surtout que la furie du courage, que l'exaltation du caractère supplée au nombre, car presque toujours, le corsaire est obligé d'attaquer des ennemis qui lui sont de beaucoup supérieurs. Encore une fois, pouvais-je mieux rencontrer ? La lutte, le combat, c'est mon fait. La résistance m'exaspère jusqu'à la rage. Le péril m'irrite comme un insolent défi, et je le brave comme une menace. À l'aspect du danger, mon sang bouillonne. Je ne sais quelle frénésie s'empare de moi, et, ainsi que mes forces, elles semblent s'augmenter en proportion du nombre de mes ennemis. Ce n'est pas tout. Je te l'ai dit, mon enfant. Dans l'ordre moral, l'oppression, la perfidie, la cruauté soulevaient en moi les plus violentes colères. Et contre qui avais-je à me battre comme corsaire ? Contre un pays abhorré, qui depuis une terrible guerre suscitée par sa haine, par son or, par son impitoyable ambition, poursuivait la France avec acharnement, employant tout pour nous combattre, trahison, perfidie, mensonge, atrocité, ne reculant devant rien, hier faussaire pour nous ruiner par de faux assignats, aujourd'hui geôlier, bourreau pour martyriser jusqu'à la folie, jusqu'à la mort, nos plus braves soldats, dans ces horribles pontons. L'Angleterre, enfin ! Oh, l'Angleterre, tiens, à cette heure où je t'écris, malgré le désespoir qui m'accable, rien qu'au nom de ce pays que je hais jusqu'à l'exécration, depuis un dernier attentat dont tu as failli être victime, le feu de la colère brûle ma joue, tout se révolte, tout se soulève en moi, mon courroux se rallume. Mais pardon, pardon, ma pauvre enfant, pardon d'affliger par ces emportements ton âme douce et tendre, ton âme aimante et ingénue, incapable de toute haine, ou plutôt n'ayant d'aversion que pour le mal. Il me fallait du moins te faire comprendre toutes les raisons qui m'engagèrent à entrer dans la seule voie qui me fut ouverte, parce que dans cette voie seulement, je pouvais donner une libre carrière à mon impétuosité naturelle. Ma résolution bien arrêtée, je t'embrassai une dernière fois pendant ton sommeil, je te baignai de mes larmes et je partis avec le goffin. La lecture d'Onésime fut interrompue par un sanglot déchirant que Sabine ne put contenir.